Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée dont voici d'abord les titres. OCHA indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette agence des Nations Unies. La pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa a déversé des importantes quantités d'eau en un temps relativement court et ont entraîné des inondations sur plusieurs grandes artères. Hier, plusieurs Kinois ont été bloqués dans leur lieu de travail. Les détails dans quelques instants. L'invité de ce journal est Milan Ngangai Yves. Il est directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. En séjour à Kindu, après avoir pris part à la réunion extraordinaire du comité de coordination du site, il s'exprime sur la gestion du parc national de la Lomami. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. Selon un rapport, le pays a enregistré 24,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, 5,3 millions de déplacés internes et 260 500 incidents de protection entre janvier et décembre 2025. Des détails avec Nancy Tambo.
Ces chiffres traduisent l'ampleur d'une crise multidimensionnelle qui affecte profondément les populations civiles, en particulier dans les provinces de l'Est du pays, mais aussi dans plusieurs zones du centre et de l'Ouest, selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette structure. La situation est aggravée par la persistance des conflits armés, l'instabilité économique, le choc climatique et la hausse du coût de la vie. Le ménage le plus vulnérable, notamment de femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les premières victimes de cette précarité croissante. Parallèlement, les déplacements forcés continuent de s'intensifier. OCHA recense 5,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, fuyant les violences armées, les attaques des groupes armés, les conflits communautaires et les catastrophes naturelles. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika figurent parmi les provinces les plus touchées. Face à cette situation, OCHA souligne l'urgence d'un renforcement de l'assistance humanitaire et d'une meilleure protection des populations affectées.
En Ituri, pendant ces temps, plus de 20 000 personnes ont de nouveau accès à l'eau potable à Kilo État et Kilo Mission, situé à 55 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. C'est grâce à la construction des deux systèmes d'adduction d'eau réalisés par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Selon les chefs du secteur des Banyari Kilo, cette action protège les populations qui s'exposaient chaque jour aux attaques des groupes armés en se rendant dans les bas-fonds pour puiser de l'eau insalubre. Elle permet également à réduire les cas de violences sexuelles et les maladies d'origine hydrique. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les travaux de construction de ces réseaux de distribution d'eau ont porté sur le captage, la mise en place des points de stockage, l'installation des systèmes de pompage à énergie solaire, ainsi que la construction des bornes fontaines. Ces ouvrages permettent aujourd'hui d'alimenter en eau potable 13 villages du secteur de Banyari Kilo pour un total de plus de 20 000 bénéficiaires directs. Réalisés sur une période de 10 années, ces infrastructures ont été officiellement remises mardi aux autorités locales à la satisfaction de la population. Auparavant, les habitants approvisionnés en eau dans des ravins et des puits insalubres situés en pleine brousse. Une situation qui exposait particulièrement les femmes et les jeunes filles aux attaques des miliciens et aux violences sexuelles, explique le chef du secteur de Banyari Kilo. De son côté, les responsables des structures sanitaires locales indiquent que les cas de maladies hydriques étaient fréquents dans la zone. Avec ces nouvelles installations, l'eau potable est désormais disponible au cœur de la cité, renforçant ainsi la protection et la santé de la population. Un rêve longtemps attendu attendue par toute la communauté, aujourd'hui concrétisée grâce à l'appui du CICR, se réjouit Innocent Madoukadala, autorité coutumière locale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
L'Assemblée provinciale de la Tchopo a condamné la déclaration publique de Corneille Nanga, diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'AFC M23 revendique explicitement les attaques de drones contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, survenues les 31 janvier et les 1er février dernier. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'organe délibérant de la Tchopo met en garde Corneille Nanga contre toute menace ou action dirigée contre la province. Aucune tentative d'intimidation ou d'instrumentalisation visant à semer la terreur ne saurait être tolérée. Les auteurs, instigateurs et complices de tels actes en répondront devant l'histoire, devant la justice et devant le peuple congolais, souligne les communiqués. Plus de détails avec Alain Irungu-Mushinji.
Dans ce communiqué, l'Assemblée provinciale de la Tchopo rend hommage à l'engagement et au professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo et les appelle à plus de vigilance et à poursuivre avec loyauté la neutralisation de toutes les forces négatives opérant sur l'ensemble de la province. Elle exhorte la population à la vigilance, au civisme et à la pleine coopération avec les services de sécurité, tout en rejetant toute forme de soutien direct ou indirect aux groupes armés et terroristes qui cherchent par des moyens lâches à semer la panique. Elle appelle la population à faire preuve d'un patriotisme exemplaire et à faire confiance au chef de l'État, au gouvernement de la République, ainsi qu'aux vaillantes forces armées. La ville de Kisangani n'est ni une zone d'expérimentation, ni une base de projection de la violence, dit-elle. Enfin, l'Assemblée provinciale plaide auprès des instances compétentes de veiller au renforcement des mesures de sécurité autour des sites stratégiques et sensibles, en particulier les installations militaires et aéroportuaires de la ville de Kisangani, afin de prévenir toute tentative de déstabilisation et des actes de sabotage.
Ce journal se poursuit dans la province du Sud Kivu, où la déperdition scolaire touche de nombreux ménages dans la ville de Bukavu, conséquence de l'asphyxie des activités depuis l'occupation de la cité par des rebelles de l'FC M23. Selon les enquêtes menées par l'ASBEL Éminent Mwanda Plus, près de 5000 enfants risquent d'abandonner l'école faute de moyens financiers pour assurer leur prise en charge scolaire. Jean Kassami, reportage.
Les résultats des enquêtes sont inquiétants, comme l'indique le président du conseil d'administration de l'ASBEL Éminent Mwanda.
À Bukavu, plus de 5000 enfants sont au risque d'abandon scolaire si rien n'est fait en urgence. Les enfants qui abandonnent l'école sont plus susceptibles de se tourner vers la délinquance et le banditisme.
Chokano Anne-Marie figure parmi les enfants rattrapés par la situation malgré leur désir de poursuivre les études.
J'étudiais à l'école française de Garale. Je faisais la quatrième année HTS. Parce que mes parents ne travaillent plus. Je fais le commerce depuis l'occupation de la ville.
Certains parents avouent leur incapacité à supporter la scolarité de leurs enfants. Nombreux ont perdu leur emploi à cause de la guerre. Mugisho Eli.
Moi, j'ai travaillé à Bralimant, mais jusqu'à présent, je manque où travailler. Donc, je ne scolarise plus mes enfants suite aux guerres qui se répètent.
Même les commerçants et les créateurs artisanaux sont devenus aussi improductifs, toutes les voies de sortie à l'intérieur étant extrêmement insécurisées. Jean Kassami, Radio Okapi.
Une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa hier en fin d'après-midi et en début de soirée. Les Kinois dans certaines communes se sont encore réveillés ce jeudi sous une forte pluie. Ces importantes quantités d'eau déversées en un temps relativement court hier ont entraîné des inondations sur plusieurs grandes artères. Dans certaines communes situées sur des collines, des érosions ont progressé. Hier, plusieurs Kinois ont été bloqués dans leur lieu de travail. Beaucoup ont dû parcourir de longues distances à pied, l'eau arrivant jusqu'aux genoux pour rejoindre leurs habitations. L'eau dans laquelle nous marchions sentait mauvais, mais nous n'avions pas de choix, nous a confié une dame. Babel Mpongo Massimango nous fait le point.
La situation n'était pas fameuse non plus pour ceux qui sont véhiculés. Des embouteillages ont été enregistrés au niveau de certains tronçons très fréquentés comme le boulevard du 30 juin. Sur l'avenue Kabambari à Barumbu, l'eau sans moyen de passage s'est déversée dans les parcelles voisines, abîmant des biens, fruit de plusieurs mois d'épargne. Une situation que le bourgmestre lie à l'obstruction du collecteur principal censé drainer l'eau jusqu'à la rivière Bichakuchaku. À la frontière entre les communes de Bumbu et Selimbao, les nids de poules se sont davantage étendus au croisement des avenues 24 novembre et manifeste. La circulation est désormais alternée à cet endroit. À Selimbao, des érosions ont aussi progressé, notamment sur l'avenue Putupanzu au quartier Kingu et Camping. Même de nouveaux postes de police récemment érigés sont menacés. Situation similaire dans la commune de Mangafula. Ici, l'eau de la rivière Boudi a aussi débordé, inondant tout sur son passage au quartier Lutendele. Notez que plusieurs Kinois n'ont pu regagner leurs habitations que tard dans la soirée, après beaucoup de souffrances. D'autres ont fini chez des amis ou des proches. Tous plaident pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des inondations dans la ville de Kinshasa.
Dans la province du Maniema, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et la Société zoologique de Francfort ont clôturé les travaux de la réunion extraordinaire du comité du site Kokosi à Kindu. Pendant 2 jours, les participants ont dressé les bilans des réalisations de 2021 à 2025 en s'appuyant sur les objectifs opérationnels des programmes de gestion. Ils ont également présenté et adopté les actions à mettre en œuvre en 2026. La rencontre a permis de dévoiler une première mouture de la stratégie de gestion de la zone tampon et de préciser les attentes du parc national de la Lomami concernant l'implication de toutes les parties prenantes. Florence Kizalunga.
Le parc national de la Lomami, considéré comme le plus jeune des parcs de la RDC, mérite un accompagnement renforcé pour sa protection, notamment de sa zone tampon, a déclaré le directeur général de l'ICCN, Milan Ngangai Yves.
J'ai décelé dans ces défis présentés une nécessité de renforcer la coordination opérationnelle, l'utilisation des données scientifiques dans la prise des décisions ainsi que l'implication effective des communautés locales pour réduire durablement les pressions sur le parc national de la Lomami.
De son côté, Al-Hadi Selemani a insisté sur l'importance de mettre en place des panneaux de signalisation pour délimiter clairement les parcs afin d'éviter que les communautés soient assimilées à des braconniers lorsqu'elles exercent leurs activités dans la zone tampon.
La zone tampon, c'est la zone d'activité des communautés. En circulant librement, vous pouvez facilement vous retrouver dans le parc et là vous serez considéré comme braconnier.
Le gouvernement provincial représenté par Georges Kasongo a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts de conservation et de préservation de la nature.
Le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour accompagner les efforts dans la conservation et la préservation de la nature.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, à Mbandaka cette fois, un groupe de personnes se présentant comme des citoyens révoltés grincent les dents. Ils demandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'ordonner la dissolution pure et simple de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ils ont exprimé cette demande dans une pétition rendue publique au début de cette semaine devant la presse locale. Les pétitionnaires accusent l'Assemblée provinciale de s'immiscer dans la gestion des activités du gouvernement provincial. Reportage signé Askin Zigbia.
Ces citoyens ont déjà lancé une campagne de collecte de signatures auprès de la population de Mbandaka. Selon eux, plus de 25 000 signatures suffiraient pour exiger la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur au regard de manquements graves qu'ils disent avoir observés dans l'exercice de fonction des députés provinciaux. Papi Ekate Ekofo, rapporteur de Citoyens Révoltés, énumère quelques dérapages documentés.
Il est constaté que les députés provinciaux se substituent illégalement à l'exécutif provincial. Ils procèdent à des remplacements arbitraires d'agents et fonctionnaires de l'État. Ils interfèrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des chefferies traditionnelles.
De son côté, l'Assemblée provinciale de l'Équateur estime que cette pétition n'a aucune valeur juridique permettant de provoquer sa dissolution, comme l'a indiqué son rapporteur Ezekiel Ambokani.
Les allégations laissent croire à un quelconque conflit entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant ne tiennent pas. Car, en réalité, la collaboration entre les deux institutions reste harmonieuse et orientée vers le développement intégral de la province.
Selon certaines indiscrétions en Bandaka, plusieurs députés provinciaux se comporteraient comme des commissionnaires intervenant notamment pour faire recruter leurs proches au sein des institutions publiques.
Le lancement de l'opération Zéro Cadavre d'Indigent dans la morgue de l'hôpital général de Moanda a eu lieu ce mercredi dans la cité de Moanda. L'initiative portée par l'élu provincial de Moanda, Jean Kimboko Ndombasi, vise à désengorger d'ici au mois de mars l'unique morgue de cette partie littorale de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite à Radio Kapi, le député provincial a expliqué que la chambre mortuaire est actuellement confrontée à un surpeuplement de dépouilles d'indigents, ce qui compromet l'accueil de nouveaux corps. Pour assurer la réussite de cette opération, il appelle à l'implication de toutes les personnalités influentes du territoire de Moanda. Les propos de Jean Kimboko Ndombasi ont été recueillis par Nana Plurish Mambo.
Cette opération vise à désengorger cette morgue qui regorge aujourd'hui près de 50 corps d'indigents qui attendent encore leur inhumation après plusieurs mois faute de moyens. La situation est plus qu'alarmante, de telle enseigne que les nouveaux morts peinent à se trouver des places. L'autorité locale que nous avons vue est déjà dépassée, bien qu'elle ait déjà mobilisé une dizaine de cercueils. Moi, en tant qu'élu provincial, j'apporte ma main d'association, tout en faisant également appel aux autres partenaires au niveau local. Et nous voulons, au plus tard le 1er mars, zéro indigent dans cette morgue de l'hôpital de référence de Moanda.
Actualité internationale.
Plus de 15 jours après l'extradition précipitée du lieutenant-colonel Damiba du Togo vers le Burkina Faso, aucune nouvelle de l'ex-dirigeant burkinabé n'a été donnée. Les voix de protestation sont nombreuses à critiquer les conditions de ses renvois vers son pays d'origine. L'ANC, principal parti d'opposition togolais, a dénoncé le 2 février une extradition qui bafoue les principes juridiques et moraux les plus élémentaires. D'autres juristes émettent des doutes sur cette procédure d'extradition vers Ouagadougou.
L'invité.
Notre invité est Milan Gangaï-Yves, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en séjour à Kindu, après avoir pris part à la réunion extraordinaire du comité de coordination du site Kokossi. Il s'exprime sur la gestion du parc national de la Lomami. Milan Gangaï-Yves s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Milan Yves, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le DG, au mois de juillet, le parc national de la Lomami va totaliser 10 ans d'existence. Quelles sont les avancées à retenir? Et pourtant, à ce jour, la démarcation de sa limite prête encore confusion. D'autres communautés locales qui continuent à résister au parc.
Merci beaucoup. On a eu une réunion de Kokossi, comité de coordination du site du parc national de la Lomami. Je viens aussi à préciser que le parc national de la Lomami, c'est le dernier parc qui a été créé. D'ici là, ça va totaliser 10 ans. Il y a des avancées significatives, bien sûr, à part des petites choses qu'on doit régler entre les communautés, peuples autochtones et les parcs et les sites. Mais au moins, d'une façon générale, les choses avancent bien.
Le braconnage bat record au parc national de la Lomami jusque-là. Quel mécanisme mettez-vous en place pour l'anti-braconnage au sein du parc national de la Lomami?
Oui, nous avons une section qui s'appelle la lutte contre le braconnage, la LAB, et il y a eu des présentations ici lors de ces cocosites. Ils sont en train d'y travailler. On a fait le bilan de ces dernières années pour les luttes anti-braconnage et quelles sont les perspectives pour les 3 ans qui vont venir. Je pense que nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai, c'est un cheval de bataille pour nous. Il y a le braconnage, surtout avec les espèces endémiques qui sont ici, à l'occurrence les bonobos et d'autres espèces phares qu'on trouve les pans congolais, qu'on trouve qu'ici au parc national de Lomami. Mais nous sommes en train d'y travailler avec l'appui surtout du gouverneur qui s'est impliqué. Vraiment, il a décidé de nous accompagner et je pense que d'ici là, on pourra parler, si pas zéro braconnage, mais au moins les taux va diminuer.
Actuellement, la réserve de la Loma est presque abandonnée dans les territoires de Kabamba. Quel sort réservez-vous?
Nous sommes en train d'y travailler. Il y a des contacts même politiques et même sur le plan administratif. Heureusement, on a eu tous les chefs de secteur, chefs de chefferie qui étaient là et ils ont décidé vraiment de nous accompagner pour faire revivre encore cet espace Luama qui a été abandonné mais un peu oublié. Mais nous allons vraiment faire naître l'espoir pour que le peuple qui sont de l'autre côté puisse sentir que les choses sont en train de revenir à la normale.
Alors, monsieur le DG, quelles sont les retombées de ces assises de 2 jours que vous venez de tenir et présider ici à Kindu dans la province du Maniema?
C'est présenter d'abord les perspectives de notre parc, ce que nous allons faire dans 1 année, 2 ans et 3 ans, et mobiliser aussi des ressources. Et on avait aussi nos partenaires qui gèrent avec nous les parcs en concession. Et je pense que avec les retombées, toutes les recommandations, nous allons mobiliser des fonds pour mieux gérer encore ce parc, la Lomami, qui est un bijou pour la République.
Quelle est la particularité du parc national de la Lomami à d'autres parcs du Congo?
Je dis c'est le seul parc qui a été créé avec une zone tampon. Deuxième, il y a des espèces phares qu'on ne trouve qu'ici. Il y a les pans congolais, nous avons les bonobos, ce sont des espèces phares qui sont répandues dans tous les parcs et c'est un bijou que nous devons protéger.
Un message à la communauté, surtout celle qui hésite encore au parc national de la Lomami.
À toutes les communautés, aux peuples autochtones, nous les invitons ensemble, main dans la main, pour sauver ces parcs et pour protéger ces espèces et protéger nos forêts, notre biodiversité. C'est la plus grande recherche qu'on peut avoir ici dans la province du Maniema.
Et si on vous demandait de formuler une recommandation au gouvernement congolais pour la protection de ces parcs, quelle serait cette recommandation?
Là, j'en appelle aux autorités politiques, surtout aux chefs de l'État. Les parcs de la Lomami, c'est le dernier, le cadet même de tous nos parcs, mais c'est un parc qui a moins de problèmes et nous demandons vraiment son implication personnelle en tant que garant de la nation, en tant que premier, le conservateur suprême de la République démocratique du Congo. Et depuis qu'il est là au pouvoir, on a senti que sur le plan environnemental, sur le plan biodiversité, les choses sont en train de bouger, surtout avec les projets ambitieux, la création du couloir vert. Et je pense que ça peut se dupliquer partout dans d'autres provinces. Et je pense que nous sommes les premiers bénéficiaires.
Merci, Willan Ngangaï Yves. Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était notre invité Ngangaï Yves. Il s'entretenait avec Florence Kizalunga sur la gestion du parc national de la Lomami. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée coordonnée par Élisée Chikota Chivueta et supervisé par Alain Irungumushinge. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Ce journal est aussi disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.